Bonsoir, Ondenoir, pardon, deuxième partie. Jacques, je te laisse la parole pour nous parler d'un bien beau roman.
Oui, donc pour cette deuxième partie d'émission, je vais vous amener dans un pays qu'on visite rarement, enfin du moins que les auteurs de polar visitent rarement, en tous les cas pour l'instant, c'est l'Estonie. On va même y aller en train, puisque le roman s'intitule « Le train pour Tallinn ». Il a été écrit par Arnaud Sarr, ça s'écrit S-2-A-R, et il est publié aux éditions La Fosse aux Ours. Il est traduit de l'italien par Patrick Vighetti. J'ai un peu menti, on va pas y aller en train, parce qu'en fait, le train en question, dans le roman, il arrive de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est l'ancienne Leningrad soviétique. Et à bord de ce train, qui est une navette régulière entre Saint-Pétersbourg et Tallinn, donc en Estonie, le contrôleur va découvrir qu'un voyageur russe n'est pas descendu du train à l'arrivée en gare de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Il a l'air endormi, mais en fait, il est mort. Il semble être décédé d'un infarctus, mais l'autopsie va vite révéler qu'il a été empoisonné à la ciguë, la même que ce bon vieux Socrate.
Qui est mort.
Qui est mort aussi.
Beaucoup plus
autant. C'est lui qui se l'était auto-ingéré. Là, ça c'est peut-être ça aussi d'ailleurs, enfin vous verrez en lisant le livre. Et c'est le commissaire Marco Kurisma, ça s'écrit avec deux A à la fin, alors peut-être ça se prononce pas ma, mais me.
Certainement.
Marco Kurisma mène des investigations. Alors c'est un flic atypique, car il souffre à la fois de narcolepsie, ce qui peut être gênant dans une enquête, mais il est aussi sujet à des insomnies, ce qui affecte très fortement son humeur. Par contre, c'est un flic tenace et déterminé.
Donc, il aurait dû paraître dans le grand sommeil.
C'est ça, voilà, tout à fait. C'est en janvier, donc c'est l'hiver aussi en Estonie, mais là-bas l'hiver c'est sérieux, il neige. Et même si les personnages, comme les habitants, ils sont plus habitués que nous sur la Côte d'Azur, la neige, cela ne facilite pas ni les mouvements, ni les déplacements. Et évidemment, ça ne réchauffe pas vraiment l'ambiance. À la manière d'un Marlowe, Kurisma se déplace beaucoup dans la ville et dans ses environs pour les besoins de l'enquête. Ce qui permet au lecteur de découvrir cette ville à travers un roman, avec sa vieille ville, ses quartiers pourris en périphérie, la, disons, maléfique empreinte de la Russie dominatrice, enfin, qui était dominatrice jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils sont indépendants depuis 1991. D'ailleurs, en fait, il est beaucoup question de Russes dans ce roman. Et pas seulement parce que le mort, qui s'appelle Igor Semenov, celui qui a avalé de la ciguë, est russe. En fait, il faisait un business légal d'un côté, un peu moins de l'autre, entre la Russie et l'Estonie. Je vous laisse découvrir quel était le business illégal, évidemment, et le légal aussi d'ailleurs. Alors l'enquête, sans que j'en révèle trop, va faire remonter aussi à la surface un événement tragique de l'histoire estonienne. Et l'auteur propose une version qui contredit un peu, ou du moins en partie, la version officielle. Alors l'enquête est très bien menée, il y a vraiment un rythme, la narration est très bien faite. Mais un des atouts du roman, c'est son personnage principal. À part sa narcolepsie, bien sûr, qui est déjà pas courante, c'est pas un flic au bout du rouleau, comme on en lit souvent. Il est plutôt jeune, mais il n'est pas dépressif. Même s'il vit assez mal le poids que son père, qui était un prof célèbre, fait peser sur ses épaules, car il a été dissident pendant l'occupation soviétique. Kurisma n'est ni drogué ni alcoolique. Par contre, il ne refuse pas une bonne bière ou un bon verre de vin, il faut pas exagérer. Il a longtemps pratiqué le ski de fond en tant que compétition. Il l'utilise toujours pour se déplacer, parce que là-bas, quand il y a de la neige, c'est quand même un moyen bien pratique. Il vit aussi une histoire d'amour bien tranquille et assez discrète avec
ton hésitation.
Oui, et avec une de ses jeunes collègues qui travaille aux mœurs, une flic, quoi. Et cette jeune collègue l'initie, entre autres, au mystère de l'informatique, car lui, il sait pas sa génération.
Ça doit faire des nuits torrides.
Exactement. Vous les lirez. Alors évidemment, c'est pas tout à fait ni Montalbano ni Pepe Carvalho, mais c'est vraiment un personnage avec lequel on se sent bien. Et comme le sous-titre du roman est la première enquête de Marco Kurisma, on se dit qu'il va peut-être y en avoir d'autres, surtout que, sans vouloir spoilier l'histoire,
il ne meurt pas à la fin.
Il meurt pas à la fin, voilà. Et je peux même vous dire qu'il trouve le ou les coupables. Alors, j'entends déjà les auditeurs attentifs qui se demandent, mais pourquoi ce roman estonien est traduit de l'italien ?
C'est une bonne question, j'allais te la poser d'ailleurs. Voilà.
Je me la suis posée moi-même, et grâce à une enquête digne de Sherlock, de Rouletabille ou du plus fin des détectives privés américains, j'ai pu découvrir que Arnaud Sarre, l'auteur donc, est en fait le pseudo d'un auteur italien turinois. Du coup, c'est normal qu'il écrive en italien. Et cet auteur, c'est un auteur de polar que l'on connaît, qu'on aime bien, qui s'appelle Alessandro Perissinotto. Et cet auteur, on a déjà parlé dans cette émission, quand il n'écrit pas de la fiction, il est prof de sémiologie à l'université de Turin. Donc voilà, il a plusieurs cordes, de belles cordes à son arc.
Mais moi, je voulais saluer aussi le travail de ce petit éditeur.
Lyonnais.
Petit éditeur par l'importance du nombre de ses employés, n'est-ce pas, et de la structure, mais qui nous fait découvrir des pépites, la plupart du temps de la péninsule italienne. Donc, et vraiment, il y a un très, très beau travail. Il y a un beau travail aussi sur la couverture. Voilà, allez réclamer chez votre libraire favori les nouveautés de cet éditeur, La Fosse aux ours.
Donc, entre autres, évidemment, le roman Le train pour Tallinn de Arnaud Sarre.
Et comme c'est un Italien, est-ce que tu as bien précisé le nom du traducteur?
Oui, je l'ai dit, Patrick Vigetti, qui est le traducteur habituel d'ailleurs de Alessandro Perissinotto, c'est ça d'ailleurs
et
qui m'a.
Bien d'autres.
Et de bien d'autres, c'est ça qui m'a mis sur la piste.
Un petit peu de musique?
Un petit peu de musique. Alors, pour faire le lien en fait entre les deux chroniques, celles que je viens de faire, donc, car le commissaire Charisma adore Michel Petrucciani. Et l'un des personnages du roman dont va parler Jean-Marc tout à l'heure, lui, il écoute souvent du Thelonious Monk. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un morceau de Monk interprété par Michel Petrucciani. Et ce morceau, c'est un des plus célèbres, qui s'appelle Round About Midnight. Donc, par Michel Petrucciani en piano solo. Voilà, on va quitter Michel Petrucciani et Thelonious Monk pour retrouver Jean-Marc Laherrère, qui est aussi pianiste à ses moments perdus, mais lui va nous parler d'un polar argentin, si je ne m'abuse.
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir, oui, c'est bien ça. Il vaut mieux que je parle de polar plutôt que jouer du piano après ce qu'on vient d'entendre.
Après Petrucciani, c'est sûr, voilà. Ça on vous aurait pas demandé, franchement. Hein.
Voilà. Donc oui, je vais vous parler d'un polar argentin qui s'appelle, avec un titre un petit peu énigmatique, qui s'expliquera dans le polar, Le gardien de la Joconde. C'est écrit par Jorge Fernández Díaz, c'est paru chez Actes Noirs, et c'est traduit par Amandine Pi. Alors, De quoi s'agit-il ? En fait, on a un marateur qui est un ancien militaire, un de ceux qui ont survécu au désastre de la guerre des Malouines. Alors, il s'appelle, en fait, on l'appelle, il a un surnom, Remil, qui vient en fait de Hijo de Remil Putas, donc en fait, c'est un dur à cuire, un hard-boiled, un dur au mal, un dur à tuer, un costaud. Et depuis qu'il est rentré, il a été embauché par un de ses anciens chefs militaires pour servir dans une espèce d'annexe des services secrets argentins. Alors c'est pas les services secrets directement, mais c'est une annexe qui est chargée de régler les problèmes encore moins officiels et légaux que ceux qui sont pris en charge par les services secrets. Donc des petits services aux politiques, des missions de garde du corps, etc. Et puis tout va commencer quand on le charge de protéger Nuria, c'est une avocate espagnole qui est venue a priori négocier des contrats avec des producteurs de vin. Il se demande bien pourquoi on lui demande de protéger une avocate qui vient faire des affaires, et puis il s'aperçoit très rapidement qu'en fait de vin, elle n'est pas là pour négocier des contrats de vin, mais pour mettre en place tout un réseau de transport de cocaïne qui vient de Colombie et qui part vers l'Europe.
Dans le Merlot.
Dans le Merlot. Ou dans le, voilà, exactement, le Merlot ou le Cabernet Sauvignon. Dans le rouge, entre autres. Mais il y a beaucoup de, on va apprendre plein de choses sur la façon de transporter la cocaïne. Et puis surtout, elle va venir faire ça avec la complicité et l'aide de tout ce que l'Argentine compte de corruption, et c'est vaste. Alors avec des politiques locaux et nationaux, des syndicalistes, des policiers. Et puis comme son chef lui explique pas pourquoi il doit faire ça ni rien, ben Rémy, lui, c'est un bon soldat, il va obéir jusqu'à ce que, bien entendu, ça commence à foirer et à tout partir en vrille. Alors, raconté comme ça, on est dans un genre assez codifié, de l'ancien soldat qui est rompu au combat, largué dans un milieu qui est soi-disant civilisé, mais néanmoins hostile, et qui, bien entendu, à un moment ou un autre, va se faire larguer par tout le monde. C'est un peu la figure de style. Pour ceux qui connaissent, ça serait une version argentine de certains romans de Stephen Hunter, par exemple, avec son Bobby Swagger, une espèce d'anciens soldats qui se trouvent toujours seuls contre tous.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça au début, en tous les cas.
Voilà, il y a un peu de ça. Alors, il y a de ça, effectivement, dans la menée de l'intrigue, dans les fusillades, les bastons, un héros qui en prend plein la tête mais qui survit à tout. C'est bien fait, c'est prenant, on est embarqué, et ça tombe pas dans le ridicule. C'est toujours un peu le risque quand même quand c'est mal fait, ce genre de choses.
On y croit, c'est quand même. Hein.
On y croit bien, on croit au personnage, on croit à tout ce qui arrive. Alors ce qui fait de ce polar quelque chose d'un peu plus intéressant que tout ça, même si j'aime bien Stephen Hunter de temps en temps quand il faut se vider la tête, ben, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis, c'est pas américain, on est en Argentine. Et là, ça va se sentir tout de suite. D'abord, il y a tout un vocabulaire, tout un folklore de musique, de bouffe, de camaraderie, de corruption, de grandes rencontres autour du barbecue. Bon, tout ça, c'est très bien rendu d'un point de vue couleur locale. Et puis surtout, ben, l'auteur, il va s'en servir pour décrire un pays de corruption généralisé, avec les seigneurs locaux du péronisme, qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps le parti au pouvoir en Argentine, qui est à la fois un parti national, mais surtout un parti qui est très bien implanté localement, avec ce phénomène de certains sénateurs, sénatrices. Alors c'est très équilibré d'un point de vue homme-femme. Il y a parmi les enfoirés qui ont du pouvoir, il y a autant d'hommes que de femmes. De ce point de vue-là, c'est très très correct. Et puis, avec cette caractéristique de cette classe politique corrompue en Argentine du péronisme, qui s'appuie énormément sur le mouvement syndical, donc on va avoir, comme on pourrait aussi l'avoir dans certains bouquins américains...
C'est ce que j'allais dire, en Amérique, ils sont assez forts là-dessus.
Exactement, très proche de la mafia, très proche du pouvoir, une police qui est, alors là, gangrénée jusqu'à l'os. Et puis surtout ces politiques qui sont extraordinairement décrites, sont très british, très raffinées, ils jouent au tennis dans des grandes propriétés magnifiquement entretenues, et puis ils financent leur campagne, l'achat de la presse avec l'argent du trafic de drogue et tout ça. Ça c'est pour un côté de la société argentine, et l'autre côté c'est qu'à un moment Rémy est amené à se planquer dans ce qu'on appelle une bille là-bas, c'est-à-dire c'est l'équivalent des favelas argentins, qui se nichent au cœur même de la capitale, Et on va voir aussi ce côté, une zone de non-droit où vivent des dizaines de milliers de gens, beaucoup de travailleurs pauvres qui sont pas du tout des délinquants, mais qui n'ont pas ailleurs où se loger, mais c'est également le centre de tous les trafics, et puis d'une violence abominable. Et c'est tout ça qui est décrit au travers de ce roman, qui n'est donc pas seulement un bon roman de baston, on va dire, pour résumer.
Et vous parliez donc de la richesse du vocabulaire, du fait que ça sonnait juste. Ça veut donc dire que ça doit être très bien traduit.
Ça m'a eu l'air très bien traduit. Après, je connais un peu l'Argentine, donc il y a beaucoup de choses qui, moi, m'évoquent. Immédiatement, je vois ce que c'est. Je ne sais pas si pour un lecteur qui ne connaît pas du tout, il a les mêmes images qui lui viennent. Mais c'est bien rendu, ça. C'est très bien rendu.
Oui,
c'est bien rendu avec la différence aussi avec l'Espagne. Et puis surtout ce village, voilà, entre l'extrême pauvreté et l'extrême richesse dans lesquelles, dans pas mal d'endroits, règne en fait une sorte de mafia.
Oui, mafia. Là, on en discutait avec Pascal Dietrich il y a quelques instants. La mafia s'insinue dans toutes les petites fentes que la société, que les gouvernements permettent.
Oui,
et que
voilà.
Des fois même les gouvernements autorisent et...
Voire facilitent.
Voire utilisent, autorisent, se font financer par... Alors là, en l'occurrence, c'est pas la mafia italienne. Hein. C'est une mafia très locale et qui est liée, bien sûr, avec les cartels de drogue colombiens, puisqu'il s'agit...
C'est ça, la Colombie n'est pas si loin que ça.
Voilà, qui n'est pas très très loin et qui doit... Visiblement, l'Argentine est un des pays qui organise le voyage vers l'Europe, en passant par l'Espagne.
C'est bien, c'est toujours bon à savoir. Il y a des petits coins, il y a des petits côtés géographiques comme ça dans les polars, des petits détails à savoir. Voilà, pour le guide du routard, je pense que c'est très bien ça.
Oui, alors le guide du routard vous amène, vous pourrez aller visiter les villas aussi. Après, je suis pas ça, vous pourrez rentrer. Je sais pas si vous ressortez. Je suis pas sûr que vous soyez invité dans les grandes estancias des sénateurs et des sénatrices péronistes argentins. Mais là, au moins, vous pourrez les visiter pendant quelques instants.
Pendant quelques instants, oui. Puis après, de visiter des choses beaucoup plus longuement dans certaines geôles. Dites-moi, mais j'ai rien compris, moi. Le titre, c'est quand même étrange. On peut en dire un mot ou alors il faut pas du tout en parler?
Si, on peut en dire un mot parce qu'en fait, c'est pas du tout... c'est pas le titre original. Hein. C'est parce qu'à un moment, le héros se rappelle qu'il est allé à Paris et il a discuté avec un gardien au Louvre qui est le gardien de la Joconde,
d'accord,
et qui lui dit, finalement, on fait le même boulot, vous aussi, vous êtes obligé de garder un sénateur, une sénatrice et autres, quelqu'un qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas approcher, et autres, tous les deux, nous sommes les gardiens de la Joconde. Et donc après, il a cette espèce de d'expression qui lui revient au moment où il accompagne la présidente qui est, c'est pas Cristina Kirchner, elle n'est pas appelée comme ça, mais on voit bien que c'est elle, la sénatrice. Chaque fois qu'il accompagne des politiques, et puis même à un moment, la fameuse Nouria, il se compare finalement à ce gardien de la Joconde au musée du Louvre.
Eh ben, merci beaucoup Jean-Marc, ça a bien éclairé.
Oh oui, c'est pas du tout un Pérez Reverté. Hein.
Non, ça n'a rien à voir. Parce que le titre original, c'est Le Poignard.
Voilà, j'allais vous le demander. Allez, encore 10 secondes, puisque vous êtes bilingue, dites-nous-le en VO.
Alors, en VO, c'est El Puñal.
Merci beaucoup, Jean-Marc. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Oui. On vous remercie.
Merci, puis à
très bientôt. Bonne soirée.
À très bientôt, bonne soirée.
Et bonne soirée à tous nos auditeurs, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
À bientôt.
Et évitez les orages.